Je vous invite, frères et sœurs, à écouter maintenant la lecture de la Bible. Les trois textes que nous avons choisis pour le culte de ce matin sont centrés sur la rencontre d'un Dieu consolateur et du Christ consolateur. Tout d'abord, au premier livre de Samuel, au chapitre 1, les versets 12 à 17. Il s'agit là de Anne, qui est au pèlerinage au sanctuaire de Silo. Elle demande un enfant à l'Éternel, et le prêtre la prend pour ivre, parce qu'il est vrai qu'à l'occasion de ces pèlerinages, on pouvait connaître des ivresses spirituelles, mais aussi, hélas, très matériel chemin faisant. Anne pria longuement, Élie, le prêtre, l'observait. Il voyait ses lèvres remuer, mais n'entendait aucun son, car elle priait intérieurement. Élie pensa qu'elle était ivre, et il lui dit, « Resteras-tu encore longtemps dans cet état ? Va faire passer ton ivresse ailleurs. » « Non, je ne suis pas ivre, répondit Anne. « Je suis une femme malheureuse, mais je n'ai pas bu. Je suis ici pour confier ma peine à l'Éternel. Ne me considère pas comme une femme de rien. Si j'ai prié aussi longtemps, c'est parce que mon cœur débordait de chagrin et d'humiliation. » Alors le prêtre Élie lui déclara, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël t'accorde ce que tu lui as demandé. » Dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 11, les versets 28 à 30, ces paroles de Jésus. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez le repos pour vous-même. Le joug que je vous donnerai est facile à porter et le fardeau que je mettrai sur vous est léger. » Enfin, dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 1er, les versets 3 à 5, ces paroles de l'apôtre Paul. « Louons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui est plein de bonté, le Dieu qui accorde le réconfort en toute occasion. Il nous réconforte dans toutes nos souffrances, afin que nous puissions réconforter ceux qui passent par toutes sortes de souffrances, en leur apportant le réconfort que nous avons nous-mêmes reçu de lui. De même en effet que nous avons part aux nombreuses souffrances du Christ, de même aussi nous recevons un grand réconfort par le Christ. » Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur notre sentier. Amen. Chers frères et sœurs, je vous invite maintenant à chanter dans le recueil bleu, louange et prière, le cantique numéro 400, la première, la deuxième et la troisième strophe de ce cantique numéro 400. ta présence, divin chef de ma voix, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Éternel, entretiens et renouvelle chaque jour dans nos cœurs la foi, l'espérance, l'amour. Rends-nous fidèles et tiens-nous fortement dans ta main dès maintenant et tout au long de notre vie. Donne-nous d'aimer par toi et pour toi ce que tu places sur notre route, de savoir porter avec eux leur joie, leur fardeau, de savoir les écouter, de savoir partager avec eux nos joies et notre espérance. Éternel, j'ai soif de ta présence, mets en moi ta paix. Chers frères et sœurs, j'aimerais retenir pour la prédication de ce matin dans le premier livre de Samuel, au chapitre 1 et au verset 15, cette réponse que fait Anne au prêtre Élie qui l'interroge sur sa présence dans le sanctuaire, elle lui dit « Je suis ici pour confier ma peine à l'Éternel ». Dans cette prédication qui comportera trois moments, j'aimerais, dans une première étape, que nous nous demandions pourquoi sommes-nous, nous aussi, ici, dans le sanctuaire. Il me semble que l'on apporte en général trois réponses principales à cette question. On nous dit d'abord, il faut aller au culte pour louer Dieu, pour l'adorer, d'où ce psaume chanté, et c'est une très vieille tradition des églises chrétiennes, tout au début du culte, qui veut être, ce psaume, un « à Dieu seul la gloire ». Parce que Dieu nous convoque, parce que Dieu nous rassemble, parce que Dieu nous précède chez les chemins de la vie, dans son amour, et que nous venons ici en sachant bien que si nous participons au culte, que si nous sommes chacun à notre mesure des acteurs du culte, le premier acteur du culte, c'est Dieu. Lui qui nous dit, à travers Jésus, dans la finale de l'évangile de Matthieu, « Là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. » Et puis diront certains, nous venons au culte, où il faut aller au culte pour confesser la foi chrétienne. Cela est très proche de la première raison, puisque la louange, à sa manière, est une confession de foi. Mais la confession de foi dans le culte est très problématique. Notre foi est quelque chose de profond, d'intime, de personnel, parfois de fragile et de vulnérable, et nous avons l'impression que ces confessions de foi officielles n'arrivent pas vraiment à traduire notre foi. Et puis ces confessions de foi officielles hésitent entre la tradition et l'actualité. Quand elles reprennent de vieilles confessions de foi, nous avons l'impression qu'elles sont complètement en décalage par rapport à notre vision de l'être humain et du monde. Quand on nous dit, par exemple, que Jésus est assis à la droite de Dieu et qu'il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Ou alors on essaye d'avoir des confessions de foi plus actuelles, un peu actualisantes, et ce moment du culte devient un peu, comme certains cinémas, un moment d'art et d'essai. Ces confessions de foi nous gênent un peu, elles peuvent avoir un caractère que nous croyons à tort d'ailleurs, contraignant ou normatif, alors qu'elles se veulent symboliques, elles se veulent comme un drapeau. Mais nous avons l'impression que certaines prières, que certains cantiques disent beaucoup mieux notre foi que ces credos officiels. Et puis savez-vous, la confession de foi dans le culte des églises d'Occident a attendu des siècles avant de faire partie du culte. On a vécu le culte chrétien plus de 1000 ans sans confession de foi. Et la confession de foi était simplement demandée aux baptisés à l'occasion de son baptême. Pendant très longtemps, le baptisé était un adulte. Ce baptême n'avait pas lieu pendant le culte. Et le baptisé disait « Voilà ce que je crois ». D'où le fait que les plus anciennes confessions de foi disent « Je » et non pas « Nous croyons ». C'est le cas de ce fameux symbole des apôtres dont nous savons qu'il date du IVe siècle. Mais voyez-vous, il me semble que ces deux premières raisons, aussi justes seraient-elles, ont quelque chose parfois d'un peu artificiel, d'un peu enseigné, c'est ce que l'on dit, c'est ce que l'on doit dire, d'un peu appris. Mais quand nous sommes venus ce matin au culte, ou quand nous avons décidé de nous y préparer hier, avons-nous pensé « je vais aller au culte pour louer Dieu et pour confesser la foi chrétienne ?» Soyons honnêtes, nous venons d'abord au culte pour nous-mêmes. Nous venons au culte pour nous. Et on nous dira alors, ce sera une troisième raison, on vient au culte pour y entendre principalement une prédication qui est centrale dans le dispositif cultuel et liturgique du protestantisme. Et cela est si vrai que pendant des siècles, les protestants français ne disaient pas « je vais au culte », mais disaient « je vais au prêche ». Oui, on a besoin d'une prédication, on a besoin, à travers cette prédication, d'un enseignement. Mais la prédication n'est pas un cours, n'est pas une conférence conclue par Jeudi. Ce n'est pas par hasard qu'elle est conclue par Amen et qu'elle commence par « chers frères et sœurs ». On a besoin, à travers la prédication, d'une proclamation de l'Évangile. Mais la prédication n'est pas une étude biblique en chair, même s'il y a, bien sûr, de l'étude biblique dans une prédication. On a besoin, à travers la prédication, d'une interpellation critique, même si la prédication n'est pas, dans le mauvais sens du mot, un sermon, un discours moralisateur qu'il serait trop facile du haut de la chair démaillé de commandements et d'impératifs. On a besoin dans une prédication, me semble-t-il surtout, d'être entendu, d'être écouté, d'être pris au sérieux, c'est-à-dire que cette prédication réponde à des interrogations d'ordre spirituel et théologique qui sont les nôtres, et qu'elles nous servent en quelque sorte de viatique à travers toute la semaine. Et puis, et ce sera là la deuxième étape de ma prédication, il me semble qu'il y a quand même une raison plus profonde, moins intellectuelle, peut-être plus affective, plus émotionnelle, à notre présence dimanche après dimanche dans le sanctuaire et pour le culte. Et c'est pour cela que, relisant ma Bible, j'ai été frappé par cette déclaration d'Anne dans le temple de Silo, qui dit au prêtre Élie, qui l'interroge, « Je suis ici pour confier ma peine à l'Éternel. » Oui, frères et sœurs, nous sommes ici pour prier ensemble, pour chanter nos joies et nos peines, pour vivre une fraternité chaleureuse et une certaine solidarité. Nous aimons que le culte, nous aimons que la prédication nous encourage, qu'elle soit un soutien, une aide, une force, un élan, qu'elle nous apporte un enthousiasme, qu'elle ne soit pas simplement intellectuelle, mais qu'elle parle au cœur, qu'elle parle à notre vie quotidienne et qu'elle y inscrive et qu'elle y réinscrive ou suscite et ressuscite ce que le pasteur Gilles Castelnau a tellement raison de répéter dans chacune de ses prédications. Nous aimons que les cultes et les prédications suscitent et ressuscitent en nous le dynamisme créateur de Dieu. Nous avons besoin de cela. Nous voulons grandir dans ce dynamisme. Nous voulons être fortifiés par ce Dieu créateur en nous. Et nous pouvons tous dire, chacun à notre manière, comme Anne, « Je suis ici pour confier ma peine à l'Éternel. Car nous avons tous des souffrances profondes, des deuils injustes souvent, et qui nous ont déchirés. On promettait autrefois, je l'ai encore entendu dans un film tout récemment, que l'on s'aimerait jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est absurde. Bien sûr qu'on aime au-delà de la mort. Souffrance parce que nous avons nos révoltes. Et nous aussi, parfois, nous avons l'impression que nous nous heurtons au silence de Dieu dans la souffrance. Souffrance de nos maladies, des maladies de certains de nos proches. Famille aussi déchirée ou couple déchiré, souffrance, pénibilité dans nos professions ou dans notre absence de travail parce que nous sommes au chômage. Il y a en nous tant de frustrations, tant d'échecs. Et puis, comme je parle de deuil, nous faisons aussi, hélas, le deuil, parfois, dans notre vie, d'un certain idéalisme, parce que nous nous heurtons aux réalités dures de la vie et à l'angle dur de nos tombes. Parfois, nous pouvons nous demander ce qu'aurait pensé de nous, aujourd'hui, tel que nous sommes, l'adolescent révolté, plein d'idéal, d'enthousiasme, soif d'absolu, l'adolescent et l'adolescente que nous avons été. Je me rappelle un texte très émouvant d'Albert Schweitzer, une fois de plus. Tant pis, tant mieux. Je cite Albert Schweitzer. C'est une page dans laquelle il dit que jeune adolescent, il a été saisi de tristesse, une tristesse qui lui a étreint le cœur, parce qu'il entendait des adultes qui disaient que la vie passant, ils avaient dû abandonner leur idéalisme, leur enthousiasme, devenir sages et raisonnables. Et Albert Schweitzer dit, et il affirme que ça n'était qu'une bravade d'adolescent, mais à laquelle il a essayé de conformer toute sa vie, qu'il décida ce jour-ci qu'il ne deviendrait jamais un adulte raisonnable. Je suis venu ici pour confier ma peine à l'Éternel. Il y a le spectacle du monde, le visage ensanglanté de l'histoire, et cela est d'autant plus douloureux qu'il est par des haines religieuses, des violences injustes et tant de victimes. Nous ne sommes pas parfaits. Je suis venu dire ici ma peine et l'Éternel, mais quand je dis nous ne sommes pas parfaits, je ne pense pas du tout à ces péchés. On parle beaucoup trop de péchés dans nos messes et dans nos cultes. Je veux dire que nous portons en nous des traumatismes, des blessures, et que tout cela n'est pas de notre faute, que nous sommes démunis, que nous ne pouvons pas toujours nous en tirer tout seuls, et qu'il est bon alors d'entendre Jésus qui déclare, c'était la deuxième lecture biblique de ce matin, Jésus qui déclare, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Une des raisons profondes de notre présence au culte, c'est pour rencontrer ce Dieu dont l'apôtre Paul nous dit magnifiquement, et c'était ma troisième lecture biblique dans sa première épître aux Corinthiens, de ce Dieu dont il dit qu'il est plein de bonté, qu'il accorde réconfort en toute occasion et qu'il nous réconforte dans toutes nos souffrances. Alors, et ce sera là la troisième étape de cette prédication, je me suis demandé, mais où est dans le culte ce que l'on a appelé, ce que l'on peut appeler le temps de la plainte? je suis venu ici pour confier ma peine à l'Éternel. Est-ce que ce temps ne brille pas par son absence? Parfois, il y a de cela, de la plainte, dans les psaumes, dans la prière d'intercession aussi, puisque nous pensons à ceux qui connaissent l'amertume de la vie. Il y a de cela dans la scène où nous revivons le drame d'une souffrance injuste. Et je me rappelle, il n'y a pas longtemps de cela, ce service de scène où des paroissiens, un couple, étaient en pleurs. Ils venaient de perdre un être cher. Et un autre culte aussi de communion, où une femme était en larmes. Elle allait perdre quelques jours après son être le plus cher. Et je me suis dit, mais est-ce que nos cultes font entendre cette plainte, font entendre ces larmes, au lieu de confesser dimanche après dimanche de manière très artificielle des péchés que nous n'avons pour la plupart jamais commis, est-ce qu'il ne faudrait pas à ce moment-là faire entendre le temps de la plainte? Lita Basset, qui ne connaît Lita Basset, ses livres théologiques de spiritualité avec une couleur psy très appuyée, Lita Basset, cette théologienne, écrit « Dieu n'a pas besoin qu'on lui rende un culte, ni qu'on lui fasse étalage de culpabilité. » Et ce temps de la plainte est si absent de nos cultes qu'on a dû, dans certaines paroisses, c'est souvent le cas en Suisse romande, mais parfois aussi en France, ajouter dans la semaine un culte supplémentaire intitulé « Culte pour fatigués et chargés ». Comme si le culte du dimanche n'était pas aussi, parce que nous le sommes tous, fatigués et chargés. Alors je me demande s'il ne faut pas parfois remplacer cette confession des péchés par une prière où nous disons assurément à Dieu notre plainte, mais aussi nos joies. Même un théologien aussi classique, aussi traditionnaliste, voire conservateur, que le théologien suisse Bruno Burki, qui a publié des livres consacrés au culte, affirme là qu'il n'est pas indispensable d'avoir une confession des péchés dans chaque culte. Et peut-être avez-vous été sensible au fait que j'essaye, tant que faire se peut, de colorer ce moment-là du culte de manière un peu différente. Je fais en sorte que la loi ne soit pas traumatisante, mais qu'elle vienne précisément nous dynamiser. Et je relis invariablement ce beau texte qui dit « Heureuse es-tu, heureuse es-tu !» Et puis la confession des péchés, j'essaye de faire en sorte qu'elle ne soit pas culpabilisante. Et là aussi, j'aime relire ce texte qui déclare à Dieu « Je ne me méprise pas, je ne te demande pas de m'abaisser, je ne te présente pas que des manquements. » Et on dit à Dieu « Éternel, je veux ce matin déposer ma vie, toute ma vie, devant toi. » Cette parole est très belle et rejoint mot à mot le texte et la prière et la réponse d'Anne. Parce que si vous revenez au texte hébraïque, vous verrez que Anne ne dit pas exactement ce que disent les traductions. « Je suis ici pour confier ma peine à l'Éternel. » Les traductions devraient dire « Je répands, je verse ». Allusion à un torrent de larmes. Je répands, je verse tout mon être, toute ma vie à la face de l'Éternel. Oui, toute ma vie, oui, tout mon être, Éternel. Je veux ce matin déposer ma vie devant toi, toute ma vie. Le pasteur Charles Wagner, fondateur de notre paroisse voisine et aimé du foyer de l'âme, dit dans une prière « Tiens-toi près de moi, ô Père de tous les jours, pourvu que tu sois là, compagnon aimé, témoin éternel, vivre et mourir, marcher et s'arrêter, souffrir et être heureux. Tout est bon si c'est avec toi que nous le vivons. » Je ne sais pas si vous avez remarqué depuis quelques années, les gens qui se disent tout simplement au revoir ajoutent très souvent, et c'est significatif parce que ça n'était pas le cas autrefois, ajoutent au revoir et bon courage. Très significatif. Alors, pour conclure cette prédication, je vous dis aussi au revoir et bon courage avec Dieu. Amen.